voilà le petit train de la culture gaumaise qui vient de repartir à l'instant pour une 9e édition de En Culture. Donc. Et alors, comme à l'habitué, nous sommes là avec Lou.
Bonjour, bonjour à tous.
Isabelle.
Bonjour tout le monde.
Qui prépare déjà son livre. Et Coralie.
Bonjour à tous et à toutes.
Et l'inestimable Nathan qui est là à la technique. On ne l'entend pas, mais il est là, il gère les boutons de main de maître. Alors nous voilà partis hein, pour garder les habitudes. Coralie se prépare avec un jeu et elle va bientôt tout nous dire.
Oui, j'ai décidé de ramener un petit jeu de cartes. C'est sympa les jeux de cartes, c'est facile à jouer. Et celui-ci s'appelle Tam Tam Mix Max. Et il est sur le thème de la ferme. Voilà, les vaches, les cochons, les poules, tout ça on connaît, on adore. Et en fait, c'est un petit jeu qui contient... 31 cartes images et 31 cartes mots et qui permet de jouer à 8 jeux différents en fait. Oh. Voilà, c'est un jeu 8 en 1. Génial. On parle toujours des lessives 2 en 1, etc. Oui. Ben voilà, aujourd'hui je vous propose un jeu 8 en 1 à partir de 4 ans. Voilà, de quoi avoir plusieurs heures de tranquillité avec les petits bouts. Alors, le jeu, entre guillemets, le plus simple à lancer, c'est le jeu de reconnaissance. Donc, sur les cartes, on a à chaque fois différents éléments qui sont dessinés pour les tout petits et aussi écrits, si on joue avec des plus grands. Ce qui peut toujours être sympathique hein, quand on a un petit de 4 ans et un petit de 7 ans qui commence à lire. C'est bien de pouvoir les mettre ensemble pour jouer sans qu'aucun des deux ne s'ennuie. Ça, c'est toujours compliqué. Et donc, il y a des ensembles d'éléments. Et le but du jeu est de retrouver le même élément sur les deux cartes.
C'est une poule.
C'est une poule.
Je l'ai vu avant moi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu.
Voilà, Jean-Marie est très
jouette.
Il y a des chances, oui, je pense. Hein. Ça a l'air d'être...
Est-ce que c'est le principe, parce que je pense que ce jeu est connu, est-ce que c'est le principe de Double ?
C'est le même principe que Double, c'est ça. Sauf que du coup, quand on joue avec un plus grand, il y a aussi moyen, par exemple, voilà, là le mot est là, d'associer l'image de poule avec le mot de poule. Mmh. Et c'est ce qui permet justement de faire un chassé-croisé dans les âges. Ce qui est toujours hyper pratique, je trouve, parce que souvent... C'est le problème que les parents ont, c'est j'ai deux enfants qui ont des âges assez différents, parce qu'entre 4 et 7 ans, il y a quand même un monde de différence. Qu'est-ce que vous me conseillez comme jeu pour que les deux ne s'ennuient pas et que le petit comprenne ?
Oui.
Mmh. Oui, c'est pas mal comme idée.
Donc voilà, et du coup, il y a 8 cartes règles qui reprennent à chaque fois les 8 jeux différents. Et donc en une carte, on explique comment ça fonctionne, comment préparer, et c'est hyper rapide. Vraiment hyper méga rapide. Et alors, comme à mon habitude, hein, j'ai pris une toute petite boîte qui doit faire 8 cm sur 5, à peu de choses près. Vraiment juste la taille de la carte. Très très facile à embarquer pour retourner sur les routes.
Super.
Ah ben oui, effectivement, on va bientôt pouvoir. On peut déjà peut-être voyager, donc ça va peut-être être d'actualité. Hop, je regarde un peu la boîte qui est très chouette. Hein.
Je vois que tu regardes la boîte, je t'en prie, fais-toi plaisir.
Et c'est de quel âge à quel âge tu nous as dit ?
C'est à partir de 4 ans en fait. Mmh. Donc voilà, ça, on commence déjà avec les petits et ça peut aller jusqu'à l'âge des personnes qui ont envie de jouer, après tout. On dit souvent que c'est de 7 à 77 ans, mais pourquoi s'arrêter de jouer à 77 ans ?
Évidemment.
Donc voilà, ça c'était mon premier petit jeu. Donc c'est Tam Tam Mix Max sur le thème de la ferme. Et si il vous intéresse, vous pouvez tout à fait soit aller le voir à la bibliothèque de Jamoigne ou alors le demander en préinter à la bibliothèque de Florentville. Il vous sera envoyé par le service provincial.
Oui, mais il faudra quand même aller chercher à Florentville alors.
Ah oui, effectivement, oui. Il faut quand même aller dans une bibliothèque pour le récupérer.
Oui, voilà.
Oui.
Ce genre, il ne faut quand même pas beaucoup d'efforts. Hein.
Non, non, non. On a essayé le service à domicile, mais bon, ça prend du temps.
Oui, je plaisante évidemment. Hein. Non, non, c'est très bien comme ça. Est-ce que on peut peut-être reparler du catalogue, de moyens d'y accéder. Est-ce que les jeux sont aussi dans le catalogue ?
Oui, les jeux sont aussi sur le catalogue. Et donc, on peut le retrouver en allant sur Google et en tapant « Catalogue Bibliothèque Luxembourg ». Normalement, on devrait le trouver assez rapidement.
Et on peut aussi, pour ceux qui sont fans des applications sur les smartphones, télécharger l'application Iguana. Et alors, on a accès au catalogue et à son compte, hein, parce que via le catalogue, mmh. on a accès à son compte. Donc, on peut prolonger les prêts pour ne pas avoir d'amende. On peut réserver, on peut vérifier où on en est. Et si on a, par exemple, des enfants, on peut gérer les comptes de nos enfants.
Mmh. Voilà. Ah bah c'est intéressant.
Très pratique, très rapide et très
facile. Je ferai un essai, je ferai un rapport la prochaine fois sur mon essai avec l'iguane.
Si Jean-Marie y arrive, tout le monde y arrivera.
Iguana.
Voilà. Iguana, ouais, oui. Iguana. C'est un iguane.
J'avais compris.
Bien. Bah, tant que tu es là à dire quelque chose, tu peux peut-être continuer.
Oui, je vais passer...
Allez, oui.
quand
qu'as-tu
même,
fait là
qu'as-tu ben, j'ai, en fait, je n'ai pas bien préparé, je vais vous avouer, mais ce n'est pas trop grave parce que c'est un bouquin que je connais bien. J'ai lu un article récemment disant qu'aux États-Unis, il y avait eu une explosion des ventes d'un bouquin qui a été écrit en 1948. Alors, c'est assez étonnant, mais quand vous connaîtrez le titre de ce bouquin, il suffit d'échanger les deux chiffres de la fin, ça donne 1984. C'est un bouquin dystopique qui a été écrit donc en 48 par George Orwell et qui est absolument visionnaire. Alors, c'est pas du tout étonnant que les Américains se soient remis à lire ce bouquin. En fait, ça s'est passé depuis l'instauration par une conseillère de Trump de la notion de fait alternatif, ou faits alternatifs. Alors, c'est un bouquin, je suppose que si je vous dis « Big Brother is watching you », vous voyez très bien de quoi il s'agit. C'est un énorme poster qui est placardé partout dans les rues d'Océania. C'est le pays où on se trouve dans le bouquin. Et Big Brother, c'est le dictateur parfait.
Et
c'est
alors, tu peux traduire pour ceux qui ne comprennent
bien
pas l'anglais.
Gallimard a traduit les deux fois. Et il y a une nouvelle version, je pense, en 2017. Et ils n'ont pas traduit. Ils ont gardé Big Brother. Mais ça veut dire grand frère. Voilà. Mais dans la traduction en français, ils ont gardé le mot anglais. Enfin, l'expression anglaise.
Et Big Brother. Watching you.
Ah, is watching you. Ben, vous regarde.
Voilà,
vous
donc on est surveillé.
Ah, vous êtes surveillé. Exactement. Mais Big Brother contrôle tout. Enfin, je veux dire, c'est pas que. Souvent, on réduit Big Brother aux écrans de surveillance, mais c'est pas que ça. Hein. En fait, il a instauré tout pour cadenasser la pensée. Il a tout le monde dans cette société a peur de la délation, même de celle de ses propres enfants. Big Brother a mis en place tout un système où des historiens travaillent à complètement réécrire l'histoire et donc falsifier les faits, les fameux faits alternatifs. Il crée aussi un ennemi commun contre lequel tout le monde doit se battre et que surtout tout le monde doit haïr. Et moi, je voudrais m'arrêter à ce qu'ils ont fait au niveau de la langue. En fait, dans le bouquin, il y a ce qu'on appelle en anglais le « newspeak ». Et en fait, « newspeak », pardon. Et c'est traduit par le « novlangue ». Et c'est une langue qui en fait simplifie de manière tout à fait outrancière les mots. Mais en simplifiant de manière outrancière les mots, on simplifie aussi la pensée. On nivelle la pensée par le bas jusqu'à ce que certaines notions disparaissent de la langue et donc disparaissent tout court. Par exemple, la liberté. Plus de liberté. Le mot n'existe plus. Il a simplement été effacé.
Le mot n'existe plus, donc la notion n'existe plus.
Elle finit par se perdre.
Et on ne rêve plus de la liberté.
Voilà, exactement. Et donc, je trouve que c'est un bouquin dont il faut parler, pour le moment, et peut-être le lire ou le relire. Je vais juste vous citer un tout petit extrait. C'est en fait quelqu'un qui travaille au service des recherches du ministère de la vérité. Ça dit déjà tout. Donc, nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons la langue jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. C'est assez terrifiant. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire un dictionnaire actuel du novlangue. Et je vais vous en donner deux exemples. Jean-Marie, tu me disais que souvent, maintenant, on dit « il faut adresser l'issue ».
Oui.
Alors, seuls les initiés comprennent. Il faut adresser l'issue dans des réunions scientifiques. Ça vient de l'anglais. C'est fait exprès, Isabelle. C'est tout à fait exprès. Les spécialistes, les experts se réunissent et ils disent d'un commun accord, il faut que nous adressions l'issue. Alors, tout le monde les regarde avec vénération, peut-être. En tout cas, oui, ouais, en tout cas, dans mon cas, je lèverai mon doigt et je dirais, je ne comprends pas. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Et ça veut dire simplement to address the issue en anglais. Ça veut dire, il faut que nous nous attaquions au problème. Mais c'est plus pratique de dire to address the issue puisque personne ne comprend rien. Et alors, j'ai d'autres exemples. Il y a aussi des euphémismes. Par exemple, bon, je vais le citer, hein, le ministre de l'Intérieur français Castaner a déclaré que quelqu'un avait été blessé à la vision, pour ne pas dire éborgné. Éborgné est beaucoup plus radical, beaucoup plus clair pour tout le monde. Blessé à vision, c'est on ne sait pas trop ce qui s'est passé.
C'est flou.
Oui, alors un autre terme qui est quand même assez éloquent, c'est « erreur technique ». C'est une expression stéréotype utilisée par les médias et les hébergeurs de sites internet, pris la main dans le sac à manipuler et à censurer. Mais il s'agit uniquement d'une erreur technique. Donc voilà, ça c'est pas dans le bouquin 1984, mais ce sont des exemples actuels de ce qui se passe dans le bouquin.
Les frappes chirurgicales,
voilà.
Oui,
il faut traduire par frappes dont on espère qu'elles ne feront pas trop de victimes civiles.
Oui.
C'est ça une frappe chirurgicale.
Effectivement. Et, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on le sait, hein, que le savoir, c'est le pouvoir, et que plus on possède de vocabulaire, plus on est fort. Et ce que je trouve intéressant aussi, bon, ça se dit pas toujours, mais il y en a encore qui pensent qu'on ne lit plus. Et tu as commencé en disant, voilà, un livre qui a battu des records de vente.
Oui, absolument.
Voilà, actuellement.
Oui.
Et
oui,
je trouve ça intéressant que quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la société, on se tourne vers la littérature. Au début de la pandémie, on s'est tourné vers La Peste de Camus.
Oui,
ensuite, ben, 1984, quand il y a eu les attentats à Paris, aux terrasses, tout d'un coup, tout le monde a acheté « Paris est une fête » d'Hemingway. Et je trouve ça vraiment très réjouissant.
Oui,
en
c'est
fait.
Réjouissant. Et tu viens de parler de le savoir, c'est le pouvoir. Alors, je vais vous citer les slogans d'Océania, de Big Brother, si vous voulez, c'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Donc vous voyez la manipulation, on introduit la contradiction comme étant une vérité. Voilà. Alors, une toute petite dernière citation avant de clôturer, c'est à une époque, donc c'est George Orwell qui dit ça dans 1984, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Je trouve que c'est très beau et c'est peut-être à méditer. Alors, j'ai choisi une chanson complètement à l'opposé de ça, pour un peu alléger peut-être. Alors, j'aime beaucoup la version de Bachung, des mots bleus. C'est à l'origine Christophe qui a écrit ça, mais oui, je préfère la version de Bachung. Alors, allons-y pour Bachung.
Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envole, il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai les mots bleus. Je lui dirai.
Je vais vous parler d'un livre que j'ai attrapé à la bibliothèque de Florentville. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que le titre me paraît relativement faux. Ça s'appelle « À l'aube de la sixième extinction ».
C'est avec la... Ah oui, voilà. Je reprends donc. Hein. J'ai attrapé, disais-je donc, un livre à la bibliothèque de Florentville qui s'intitule « À l'aube de la sixième extinction ». Alors je l'ai pris parce que c'est extrêmement déprimant, hein. On parle de la disparition de l'humanité dans des circonstances atroces, etc. Donc voilà, c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là-dedans? C'est qu'en fait, la sixième extinction, elle a commencé il y a bien, bien longtemps, il y a à peu près 10 000 ans de ça. C'est-à-dire avec l'invention de l'agriculture. Quand on a commencé à faire de l'agriculture, eh bien, il y a eu les plantes comestibles et les mauvaises herbes. Il y a eu les animaux qu'on mangeait, ou dont on prenait le lait, et puis il y avait les nuisibles. Alors évidemment, on a favorisé tout ce qui était à manger, en tentant de détruire aussi bien qu'on pouvait tout ce qui était considéré comme mauvais herbe ou nuisible. Il a été prouvé que dès que Homo sapiens arrive quelque part, tous les grands carnivores disparaissent. Mmh. Ici, avant, on avait des tigres à dents de sabre, on avait des ours, on avait des choses comme ça. Eh bien, l'humain a fait disparaître les tout grands herbivores. On avait hein, des espèces d'éléphants, là, hein, des rhinocéros laineux, des choses comme ça. Et tout ça a été exterminé.
Et donc ça a commencé à 12 000 ans. Évidemment, à l'époque, les techniques n'étaient pas très, très performantes. Donc l'humain n'a pas réussi vraiment à tout éteindre. Mais là, avec les moyens techniques qu'on a de nos jours, ça s'accélère, une espèce d'exponentielle. On pourrait dire que l'humanité est en train de courir vers un mur, et que plus elle s'approche du mur, et plus elle court vite. On peut regarder dans tous les domaines, dans la majorité des cas, ça va extrêmement mal. Donc il est temps d'y réagir. Voilà. Je voulais juste vous parler de ça. Mais je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus joyeux, parce que je ne voudrais pas que... En fait, si je n'ai jamais osé le dire, mais je suis sponsorisé par un fabricant d'antidépresseurs. Ah, voilà. Donc j'ai intérêt à ce que les auditeurs soient le plus déprimés possible. Et chaque fois qu'une boîte d'antidépresseurs est achetée dans la gomme, ben, j'ai un certain pourcentage. Voilà, non, le livre que je vous conseille... Enfin, si le premier livre est intéressant, c'est un constat, évidemment... que dans tous les domaines, il n'y a plus rien qui va. Et donc, il est temps de se remettre en question individuellement et ne pas attendre que les choses changent par les autorités ou par je ne sais quoi. Et on a vraiment chacun dans notre conduite individuelle des choses à faire. Donc, voilà.
Mais quand on parle de la sixième extinction, c'est l'extinction de quoi, de qui, de l'homme, de la planète, des deux.
On fait référence à ce qu'on appelle une extinction de masse, c'est-à-dire la disparition de très nombreuses espèces non apparentées. Et il y a quoi, à peu près 250 millions d'années, il y a eu une extinction où 95% des espèces vivantes ont disparu. Je
ne me souviens pas.
Ben oui, voilà.
Et il me semble que la disparition des dinosaures, c'était la 3e ou la 4e grande extinction, c'est ça?
Ben la 5e.
Ah ben voilà, la dernière en date. C'était les dinosaures.
Effectivement.
D'accord.
Et celle dont je parlais il y a 250 millions d'années, c'est une augmentation brutale de la température terrestre. Tiens, ça fait penser à quelque chose. Oui. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais...
on avait dit que tu nous parlais de choses...
Oui, mais vous m'interpellez, alors moi je réponds. Hein,
c'est
voilà,
vrai,
c'est comme
c'est
ça.
Vrai.
Non, un bouquin que je vous conseillerais de prendre... Enfin, d'abord un auteur, Jean-Marie Pelt, c'est un monsieur qui était écologiste avant qu'on invente le terme. Il est botaniste de formation. Pourquoi botaniste? Parce qu'il ne se sentait pas capable de disséquer des animaux quand il a fait ses études. Il aurait bien voulu faire la médecine, mais ou la zoologie éventuellement, mais il a été bloqué à cause de ça, donc il a fait la botanique, heureusement pour nous. Alors il a écrit une quantité incroyable de livres qui sont vraiment tous très très intéressants. Alors celui que j'ai pris cette fois-ci, c'est « L'évolution vue par un botaniste ». Alors l'évolution, c'est un sujet intéressant, c'est vraiment la clé majeure de toute la biologie. Et le fait que ce soit présenté par un botaniste, personnellement je trouve ça intéressant, parce qu'on connaît très mal les plantes en fait. La botanique est un peu le parent pauvre de la biologie, parce que les plantes ne nous ressemblent guère. Alors nous, humains, on va d'abord s'intéresser aux singes, éventuellement aux chiens, aux chevaux, aux vaches, des choses comme ça, soit parce qu'on s'entend bien avec eux, soit parce qu'ils ont une certaine utilité. Mais pour finir, les plantes, on ne connaît pas bien. Alors il y a quelques rubriques relativement pornographiques où on vous présente la reproduction chez les mousses, chez des plantes à fleurs, et alors il s'en passe des choses, hein.
Ça m'émoustille.
Oui, voilà, je comprends.
Alors, cacher cette corolle que je ne saurais voir.
Voilà, il y a des drôles de choses, des spores munis d'élatères, des antéridies, des protales, des antérozoïdes, des archégones. Enfin voilà, quand on aime bien les mots un peu compliqués, il y en a autant qu'on veut.
Le novlangue des botanistes.
Oui, c'est ça.
Alors justement, c'est un langage très précis, un petit peu compliqué, mais qui permet de porter un sens subtil. Voilà.
Mais déjà, on a commandé un bouquin de Hildegard von Bingen.
Oui.
Qui a écrit à quel siècle?
Au Moyen-Âge.
C'est Moyen-Âge. Alors, quel siècle exactement, je ne sais plus.
Mais c'est Moyen-Âge. Et elle avait déjà, elle, toute une série de recettes sur les plantes.
Oui, tout à fait.
Et voilà, on l'a. Je vais le lire et je vais mettre en pratique les recettes d'Hildegard. Voilà. Donc, quand même, les plantes étaient connues. Les sorcières aussi connaissaient les plantes.
Oui, à l'époque, oui. Mais c'est vraiment, tout a été donné à la biologie, et de nos jours, c'est la génétique, hein, qui, on voit bien, des tests PCR, des vaccins issus de manipulations génétiques. Donc, en biologie, il n'y a plus qu'une seule science, presque, en exagérant à peine, c'est la génétique. C'est un peu dommage, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plantes sauvages comestibles, il y a beaucoup de plantes qu'on trouve dans la nature qui ont des effets thérapeutiques très intéressants, et qui ont le tout gros défaut de ne rien coûter. Bien évidemment, l'industrie du médicament.
Évidemment.
J'ai un ami qui travaille là-dedans, un vétérinaire, et ils ont inventé une fois un médicament qui a très très bien marché. Et alors du coup, ils ont pu acheter tout un campus, construire les bâtiments, équiper les laboratoires, tout ça avec les profits d'un seul médicament. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, petit détail en passant, savez-vous comment le prix d'un médicament est fait ?
Ah, ben tu vas nous l'apprendre.
Allez. Non, c'est parce que c'est tout à fait hallucinant, mais c'est la réalité. Il faut un sondage pour voir à quel prix les gens ne vont pas acheter le médicament. On leur dit à quel prix est-ce que vous ne l'achetez pas.
D'accord.
Et bien, ils baissent de 50 centimes. C'est comme
et
ça qu'on...
Et du coup, on achète. Oui. Ouais, c'est ouais. Un voilà. Petit peu comme, comme quand dans les magasins, on vend un produit à 19,99 € pour ne pas mettre 20 €. Et donc, les gens sont là, c'est moins de 20 €, c'est bien. Alors voilà. Que dans le concret...
Mais si les gens savaient ça, peut-être qu'ils diraient « Oh, mais je ne l'achète pas cher ». Mais donc, les prix des médicaments seraient moins chers, je pense.
Voilà. Enfin, pour revenir à Jean-Marie Pelt, il a écrit ce livre-ci, bon, qui est peut-être un petit peu plus technique par rapport aux autres livres qu'il a écrits. On en apprend vraiment sur la botanique, les pistes évolutives propres aux plantes à fleurs. Avez-vous déjà réalisé que quand vous offrez des fleurs, vous offrez des organes sexuels ? Imaginez un petit peu que vous fassiez des cadeaux comme ça du monde animal. Là, je vous ai prévu un petit bouquet de remplissez les pointillés. Mais il a écrit des choses... il a écrit un livre très intéressant sur l'idée de faiblesse et de remise en question, de dire, tiens, dans une situation donnée, qui est le fort, qui est le faible ? C'est a priori, par exemple, le lion. Hein. Il y a un conte, je pense, ou une fable.
De La Fontaine, un lion. Le lion et le rat.
Et le scorpion aussi.
Aussi.
Et il traverse la rivière.
Le roi, c'est quand même le roi.
Avec un lion qui a une épine dans la patte.
Oui, voilà, des choses comme ça. Et donc, il prend ces exemples-là, et puis il part dans la nature avec beaucoup, beaucoup d'exemples où la situation se retourne complètement. Le petit être qui paraît vraiment malingre et très fragile se révèle en fait être beaucoup plus fort grâce à certaines adaptations.
Parce que dans malingre, il y a malin.
Voilà.
C'est par exemple le cas du paresseux.
Ah oui.
On ne croirait pas, mais en fait, cet animal a des coudes qui produisent du poison.
Ah bon ?
On ne dirait pas. Hein.
Ah, je ne savais pas ça.
Il est lent, il est tout mignon. On se dirait, oh, il est choupi, il ne va rien faire. Eh ben voilà, on ne jamais lécher le coude d'un paresseux. Si jamais ça devait vous arriver, c'est mortel.
Bien, bien, bien.
Et ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas se lécher le coude lui-même, hein, puisque c'est quelque chose, j'imagine, comme...
Ça demande trop d'efforts.
Oui, voilà.
Et oui, n'hésitez pas pour tous les livres de Jean-Marie Pelt, il y en a beaucoup dans les bibliothèques. Hein, et c'est des choses généralement qui font du bien dans cette période un peu troublée. Alors être conscient que l'humanité court certains dangers, qu'elle aurait intérêt à changer certaines de ses habitudes, c'est très bien. Mais aussi voir que dans la nature, il y a plein de toutes belles choses très émouvantes, très touchantes.
Oui, et puis c'est justement le moment là où on peut se promener et il y a plein de fleurs, plein de plantes. Donc c'est gai, on peut appliquer.
Il y a aussi pas mal de livres à la bibliothèque sur les plantes sauvages comestibles, sur les plantes sauvages médicinales.
Et des balades aussi organisées par le syndicat d'initiative, je pense.
Oui, tout à fait, à Florentville. Oui. Et c'est souvent Bernadette Delis, dame très, très intéressante.
Très intéressante.
Qui habite à Ventorval.
Beaucoup de savoir.
Oui,
très gentille.
On a été fait une balade avec elle à Muneux et c'est fascinant.
Mm-hmm. Absolument.
Bon, maintenant, il faut savoir que quand on marche avec Madame Bernadette, il faut, je ne sais pas, genre une demi-heure pour faire 50 mètres.
Tellement, il y a des plantes à découvrir.
Et encore, elle s'était limitée. Elle avait choisi une partie des plantes seulement. Elle dit non, celle-là, je n'en parle pas, celle-là non plus. Non, c'était très chouette, on a bien ri.
On conseille à tout le monde de participer à ces balades.
Alors voilà, j'ai prévu une petite musique. C'est un chanteur français qui a voulu étudier les plantes comme ça. Et il a fait une espèce de greffe et il s'est mis un chou à la place de la tête.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. pour les beaux yeux de Marilou. Je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, des mères encore, des clous. Blanche écume Varec sur la plage de Malibu.
Eh bien voilà, c'était Serge Gainsbourg, ses expériences botaniques. Et bien loin de toutes ces expériences botaniques, je vois tout à l'heure nous avons eu des cartes. Là il y a des cartes, mais en plus il y a des dés.
Oui, on va quand même rester proche des plantes, hein, puisque mon jeu s'appelle Wasabi. Et le wasabi, qui est une pâte extrêmement forte, est tiré d'une plante. Voilà, donc on reste quand même dans le même domaine, hein, je te rassure tout de suite.
Bien, bien, bien.
Alors, Wasabi, c'est un petit jeu de dés et de cartes, où le but du jeu est de ne plus avoir de dés, tout simplement. Alors, en début de partie, on va piocher, il me semble que c'est 4 cartes. C'est 4 cartes, on pioche 4 cartes, et chaque carte permet en fait d'effectuer une action. Pour pouvoir effectuer cette action, il faut obtenir ce qu'on appelle un wasabi, en jetant les dés que l'on possède. Et le wasabi, c'est un petit W entouré d'un rond. Alors, on a également sur ce même dé une petite carte avec une flèche, pour dire qu'on peut piocher une carte, et un petit dé avec une flèche qui nous permet de refiler le dé à un concurrent, ce qui est toujours très pratique. Et donc, imaginons que je lance ici mes 5 dés, on va essayer de faire doucement. Voilà. Et donc là, techniquement, je pourrais piocher 3 cartes, 1, 2, 3, et je peux utiliser toutes mes cartes qui me demandent 1 ou 2 wasabi. Et donc là, j'ai pas de chance, c'est seulement un wasabi, mais avec un wasabi, ma carte me permet de supprimer un de mes dés. Et donc ce dé-là sort de mon jeu, je n'ai plus que 4 dés à enlever, pour ne pas dire autre chose. Voilà, c'est un jeu qui est super rapide et super facile à prendre en main, et qui peut se jouer à partir de 8 ans. Alors une partie va durer environ 20 minutes, parce que c'est quand même relativement rapide. Pour l'avoir testé avec des amis, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Parce que comme le but est de se débarrasser de ses dés, mais qu'il y a moyen de refiler les dés à d'autres personnes, il n'est pas rare qu'on se retrouve avec un seul dé et qu'après, hop, on en récupère 6. Donc on peut jouer à partir de 2 et jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est assez pratique quand on a envie de jouer en soirée ou entre amis, ou qu'on a une famille avec 6 membres de la famille, tout simplement. Ça peut arriver aussi, hein.
Oui. Mmh.
Et voilà, il est vraiment hyper rapide. Alors, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que les dés sont en résine. En fait, c'est pas du plastique, c'est de la résine. Donc, c'est hyper, hyper, hyper résistant. Et c'est quand même relativement écologique. Et alors, les cartes sont en papier cartonné. Donc, ça, pareil, c'est recyclable aussi. Et ce que je trouve chouette, c'est que le jeu est quand même assez mignon. Puisque chaque carte est agrémenté donc d'une petite phrase pour expliquer ce qu'on peut faire, mais aussi d'un petit personnage qui est un petit personnage de wasabi, en fait, avec différentes couleurs.
Et pourquoi il s'appelle Wasabi, ce jeu?
Alors, c'est une excellente question, mais il ne l'explique pas dans les règles, alors
ah,
je ne sais
désolé.
Pas. Mais personnellement, je pense que c'est parce que c'est un jeu qui est très piquant.
D'accord.
Voilà,
c'est une bonne réponse.
D'expérience personnelle, quand on n'a plus qu'un dé, qu'on est à deux doigts de remporter la victoire et qu'on en récupère six d'un coup, ça pique.
Mais on peut se décharger quand on a la bonne image sur le dé, on peut le donner à qui on veut ou
c'est ça. C'est ça. Donc en fait, donc donner son dé, on peut le donner au joueur de notre choix vraiment. Et alors la carte qui permet de supprimer le dé, ça, le dé est complètement retiré du jeu.
D'accord.
Et c'est ça qui fait que à un moment la partie finira par prendre fin, tout simplement. Donc voilà. Et alors il y a plein de petites cartes comme ça pour pouvoir embêter ses amis parce qu'il y a rien de plus rigolo. Donc par exemple, il y a cette carte-là qui est super chouette, qui force tous les joueurs à échanger leur dé avec le voisin de droite. Et donc, la personne qui n'avait plus qu'un dé doit donner son unique dé à son voisin de droite et récupérer ce que son voisin de gauche avait. Des fois, ça se passe bien, des fois pas trop.
Donc en fait, rien n'est jamais acquis.
C'est ça. C'est vraiment un jeu de hasard. C'est très hasardeux et c'est très très rigolo. Et il y a aussi des cartes qui permettent, par exemple, de retirer toutes les cartes d'un joueur sauf une. Donc avoir beaucoup de cartes, ça permet de faire beaucoup d'actions et donc éventuellement de se débarrasser de ses dés plus rapidement. Alors que quand on n'a plus qu'une carte, il faut bien la choisir. Voilà, on peut faire passer son tour à un joueur aussi. Ça ne demande aucun wasabi. On peut la jouer dès qu'on en a envie. Mais du coup, voilà, en fin de partie, cette carte-là peut être salvatrice. Effectivement, si on n'est pas en train de gagner, elle peut être salvatrice.
Donc il faut aussi une stratégie sous-jacente.
Exactement. Donc voilà, c'est vraiment de la réflexion et du hasard. Et très, très, très... voilà, il est vraiment hyper, hyper, hyper sympa. Alors, il y a aussi cette carte-là que moi j'adore particulièrement. C'est, on peut piocher dans le jeu d'un joueur la carte qu'on veut, mais en voyant toutes les cartes. Donc, on peut choisir sa meilleure carte, celle qui va nous arranger le plus, pour pouvoir la récupérer. Voilà, il est super facile à prendre en main. Il est très très chouette et il est très coloré aussi.
Oui.
Voilà, ce qui est toujours assez sympathique aussi. Et honnêtement, je pense qu'à partir de 8 ans, c'est un bon âge, parce qu'il faut quand même savoir lire les cartes. Même si elles ne sont pas très, pas très compliquées à comprendre. Mais surtout, voilà, il faut quand même pouvoir réfléchir un petit peu à un coup au-delà de ce qu'on avait prévu, au cas où. Ça, ce n'est pas toujours évident non plus. Donc voilà, et au niveau des dés, il y a quand même 24 dés. Et donc, si on joue à 6, on démarre tous avec, avec 4. Hein. C'est bien, oui, avec 4 dés, voilà. Ça va, je sais toujours compter. Donc voilà, et il y a 36 cartes illustrées, ce qui permet quand même d'avoir un petit paquet de réserves.
Et y a un sac pour ranger les dés, est-ce que les cartes rentrent aussi dans le sac pour le voyage, par exemple ?
Oui, normalement, tout rentre dedans, sans trop de soucis. Après, la boîte n'est pas particulièrement grande non plus. Elle fait une vingtaine de centimètres, je pense, je ne suis pas très douée avec les tailles, mais elle doit faire une vingtaine de centimètres, donc ça reste relativement transportable quand même. Voilà, mais c'est sûr que le petit sac, voilà, on entend bien les dés qui tombent, c'est parfait. C'est sûr que le petit sac dans lequel on peut tout mettre est quand même vachement pratique. Hop, voilà, ça c'est mon magnifique petit jeu Wasabi. Et alors j'en ai un dernier... à vous présenter, si vous êtes motivé, parce que je ne veux pas vous l'imposer non plus. Mais donc c'est un jeu pour lequel on n'aurait presque pas besoin de la boîte, en fait. Ça s'appelle Jokes de Papa. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est Blagues de Papa. Et il est de notoriété assez commune que les papas font des blagues un peu pourries. Les blagues qui sont drôles parce qu'elles tombent tellement sous le sens qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de rire.
Il y avait un groupe comme ça sur un réseau social connu qui disait « Si toi aussi, ton papa fait des blagues à deux balles. »
Ah oui, ben voilà. Ben je pense qu'on a tous, on a tous connu un papa ou un tonton qui faisait ce genre de blague un petit peu pourrie. Et donc dans ce jeu, il y a 250 cartes avec des blagues. Et il y a 70 cartes avec 10 ta joke, donc 10 ta blague, et qui imposent une certaine manière de faire. Alors, il faut que je les retrouve parce qu'elles sont quand même magnifiques. Voilà, c'est un peu parfait. Par exemple, dis ta joke en imitant une personne âgée.
Que dit un rouleau de papier toilette à Luke Skywalker? J'y suis ton père.
Mon Dieu, mon Dieu. Oui, effectivement, oui, c'est les blagues de papa.
C'est bien les jokes de papa.
Ce sont des blagues nulles. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais donc, voilà, il y a... Et alors, les... avec... déjà, les blagues en elles-mêmes, bon, elles sont relativement sympathiques. Mais alors, quand, en plus, il faut le faire en faisant semblant de faire un striptease. Ou en faisant semblant de jouer au tennis. En imitant Marge ou Homer Simpson, ça permet de mener le jeu à une toute autre dimension.
Et c'est un bon jeu de fin de soirée, ça.
Oui.
Ah, ça, c'est sûr. Je pense que oui. Quand on aura un petit verre dans le nez, à mon avis, ça va être bien, bien sympathique.
Ou même sans boire, voyons, Coralie, mais en étant juste un peu fatiguée.
Tout à fait, tout à fait. La fête est plus folle sans alcool, je suis tout à fait d'accord. Et donc, bah, je vous propose de lire deux, trois petites blagues, de se partager deux, trois petites blagues. Hop, je vais distribuer des petits paquets comme ça.
Mais oui, ce serait dommage que les auditeurs ne profitent pas de ces super blagues pourries, donc. Hein.
Nathan, est-ce que tu veux des blagues?
J'ai pas de micro.
Nathan qui fait semblant de ne pas avoir de micro. Bon, écoute, on va se passer de toi, mais il faut que tu nous fasses une technique impeccable. Hop, et voilà, si jamais quelqu'un a envie d'utiliser une dita joke avec un... en faisant semblant de jouer au tennis, par exemple.
Moi, tu veux qu'on te donne une...
Oui, 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 bah oui, qu'on participe un petit peu, que nos auditeurs puissent entendre un peu d'humour.
Alors, moi j'en ai une, hein. Bon, ça va?
Je suis prête.
Alors, pourquoi mettons une selle sur un cheval? Sur un cheval, donc.
Parce que si on la met en dessous, c'est pas pratique.
Eh bien, exactement, Isabelle. On tombe. J'aurais pas trouvé.
Et ben moi, hier, j'ai raconté une blague à mes habits. Et ils étaient tous pliés.
Mais comment reconnaît-on un Belge dans un aéroport?
Ça, je pense que je connais. Hmm? C'est le seul à donner à manger aux oiseaux. Aux avions.
Oui, et comment est-ce qu'on reconnaît un Suisse?
Je ne sais pas.
C'est celui qui vend du pain aux Belges.
D'accord.
Ah ouais. Où a été signé le traité de Versailles? Au bas de la page.
Oh, c'est beau, c'est beau.
Ah, bien, bien, bien.
Alors, j'en ai une sympathique aussi. Deux vampires discutent dans la rue. Bah, pourquoi t'as le visage en sang? Tu vois le poteau là-bas? Moi, je ne l'avais pas vu.
Attends, là, il y a des choses. Quel âge a ce sous-marin? 2 ans. Waouh, il va devenir gros.
Oui, c'est tellement pourri qu'on ne comprend pas.
C'est aussi le principe des blagues de papa. Hein. J'avoue que mon papa, des fois, me fait des blagues que je ne comprends pas.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, quand il doit me les expliquer, après, il est un peu énervé.
Eh ben, dis donc.
Quel est l'animal qui saute plus haut qu'un arbre?
Bah tous, un arbre, ça saute pas.
Voilà.
Je pense qu'il est temps de passer à la chanson. Hein. Voilà.
Oh là là.
Tu peux nous dire ce que tu as choisi, Coralie?
Oui, tout à fait. Alors, comme je trouvais qu'on risquait effectivement d'exploser de rire, je me suis dit qu'on allait s'écouter La Grenade de Clara Luciani.
Oh.
Et je te montrerai animal déguisé au matin. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne.
Ça finit brutalement. Mais voilà, ce n'est pas grave. Isabelle était de toute façon au taquet.
Mais oui, Jean-Marie. Pour la suite de Marie Fizaine.
Nous t'écoutons.
Une femme de caractère, donc. Et nous sommes toujours dans l'épicerie de la tante Juliette. Et la période des communions solennelles était propice à la vente. Les saints quittaient leurs rayons, tels des petits pains bénis. L'achat d'un chapelet ne se discutait pas, enfermé dans une jolie bourse. Les sous-verres religieux se vendaient à moindre prix et frappaient par leur image du plus pur Saint-Sulpice, le beau gamin ou la ravissante fille en toilette du jour, accompagnée d'un ange gardien sur un ciel divinement céleste. Le souvenir pour la vie. Le plus important, c'était tout de même le missel. Tous les formats, les épaisseurs, la qualité du papier, les enluminures et la beauté de la couverture, cuir ou cartonné, faisaient le prix à l'avenant. La commerçante y joignait en sus, avec un sourire à fendre la pleine lune, une image pieuse et parlante. Tous les saints du paradis priaient pour nous. Chaque soir venu remontait en moi cette sorte de nausée, un vague à l'âme débordant et le déluge des larmes. Je voulais retourner. Il y avait aussi, et jamais je n'oserais le dire tout haut, c'est que le soir venu, je sentais des ombres autour de moi. Avant de partir, mon frère me raconta que c'était une maison plaisante aux revenants, que les fantômes y avaient leur coin un peu partout et que des bruits cocasses se faisaient entendre comme nulle part ailleurs. « Veux-tu te taire ?» a grondé maman. Lui riait de ma figure apeurée. Comment donc garder l'esprit serein? Et puis la mort de grand-mère était encore là, ça bougeait sans cesse dans ma tête. Son âme flottait dans son absence. Je la retrouvais jusque dans ses gestes, sa parole, marchant dans ses pantoufles qui lissaient le pavé. Personne ne peut arriver à décaper les murs intérieurs d'une vieille maison. Le passé reste accroché avec partout des yeux perçants qu'il faut supporter devant ou derrière vous. Vivre sans eux, c'est vous exposer à une mort subite. Nous devons apprivoiser. Cela doit être le mot juste. Alors, j'apprivoisais. Cerner les histoires, les petites et la grande, et regarder la mort en face. Enfin, comme il y a les bonnes et les mauvaises personnes, il y a aussi les bonnes et les mauvaises maisons. Pourtant, celle de grand-mère était une des meilleures. Très vite, j'appris à suivre ma cousine partout, dans la maison, comme à l'extérieur. Elle poussa des cris quand elle vit soudain que je me trouvais sur ses talons pour descendre à la cave. Il ne fallait pas que sa mère sache, parce que tante Juliette me voyait déjà la tête fracassée, les membres en loques comme une poupée au fond de sa cave. Car c'était sa cave. L'escalier en pierre était dur comme pierre et ne pouvait s'écrouler sous mon poids. La marche très haute faisait que je me déhanchais fortement. Il n'empêche, je rattrapai ma cousine et elle me prit la main pour parcourir ce domaine interdit. Son père y fendait le petit bois ou les bûchettes pour allumer les feux. Sur le cubilot, les lessiveuses parfumaient les voûtes de leur bouillonnement au savon noir. Les pommes de terre se trouvaient au même endroit que les carottes et les étagères attendaient les pommes et les poires. Ici, le Lucien y passait son temps libre. Il y bricolait à son aise, devant la porte ouverte sur l'extérieur par beau temps. Et aujourd'hui, je m'y aventurais avec plaisir. Soudain, le village me semblait plus près. L'épicerie de la mère Fifine était à deux pas et plus bas, le café Rion faisait face au bistrot de la Margot. Mais tout proche, il y avait l'abreuvoir rempli à ras-bord. J'empoignai alors à deux mains une branche de fagot et clac, clac, l'eau vibrait, inondait avec rage le monde entier. Ma cousine se précipita, trop tard. Mes vêtements dégoulinaient et je m'acharnais dans ce défoulement inespéré. Bien fait ! Elle me frotta vigoureusement la tête et pendit le tablier sur un fil. Dans ma robe à bras nus, je m'allongeai sur le banc en plein soleil. « Tu as voulu prendre un bain ?» me dit l'oncle en riant dans ses moustaches. À midi, tante Juliette, qui prétendait que son petit doigt lui disait tout, avait deviné une incartade. « Rien, mais non, rien !» répondit sa fille. « Elle s'est seulement rafraîchie un peu !» ajouta son père, qui paraissait s'amuser aux dépens de la patronne. Alors celle-ci roula ses yeux noirs sur le trio, en s'adressant une fois de plus à sa fille, qui avait déjà pris la fuite, essayant toujours de cacher cette joie de vivre qui lui était propre et les fossettes sur ses joues qui ne faisaient que la trahir. « Tu me caches quelque chose !» cria sa mère. Le village s'écrasait sous un soleil torride dans un calme étonnant. Côte à côte, nous allions elle et moi, regardant au passage les maisons aux portes grandes ouvertes sur les corridors profonds où les dalles transpiraient jusque sur le seuil. Les étables étaient vides, les parfums bas d'été traînaient à ras de terre. Les rigoles des fumiers restaient asséchées. Une poule pleurnicheuse caquetait sur un usoir, tandis que ses consœurs dormaient à l'ombre d'un taillis. Les passants se faisaient aussi rares que les enfants qui flânaient à l'abri quelque part. Ils ne pouvaient savoir combien je les enviais. Résonnait non loin le pas d'un cheval qui parut, la robe luisante de sueur. Perché à l'arrière de la charrette, la chemise au large et la tête logée sous un ample chapeau de paille, son maître cherchait un vent bien improbable. C'était le début de l'après-midi, et ma cousine devait se rendre à sa leçon de piano, afin d'entretenir ce qu'elle avait durement acquis au pensionnat. Pour se rendre chez Mademoiselle Léonce Henriquet, il fallait traverser le village sur toute sa hauteur, vraiment là où la chaleur s'accumulait sans merci à cette heure. « Vous avez le temps, avait dit sa mère, ne courez pas, avec cette chaleur et surtout marchez à l'ombre. » Alors nous marchions droit devant nous, le chapeau sur le sommet de la tête. Tante Juliette m'avait fait revêtir ma robe des dimanches en voile blanc, avec des nids d'abeilles bleues brodés sur le corsage. « Tu as de la chance, c'est ta marraine qui a brodé ça. » Son doigt touchait à peine le tissu, mais elle me rappelait à qui je devais la chose. Je compris pourquoi maman l'avait placée bien pliée par-dessus dans la valise. Sûrement aussi, c'était plus saillant, plus convenable, puisque ses longues manches à poignets me couvraient les bras. Quant à ma compagne, rien ne changeait. Elle affichait gaillardement son uniforme et tenait sous son bras une farde cartonnée de grand format. « Bonjour, monsieur le maître, » lança-t-elle en tirant sur mon bras pour me ramener à la politesse. « Bonjour, les enfants, » répondit l'instituteur, monsieur Warland, qui se pointait sur le devant de sa porte. Quel ennui! Ouvrir la bouche par ce temps orageux et gâcher sa salive alors qu'il faisait étouffant, que la sécheresse de l'air donnait envie de vider les ruisseaux et les rivières par-delà. À vrai dire, notre sortie ne m'amusait pas. La grande bâtisse du chauffeur Rufos montrait en vitrine le soulier à la mode. Ma cousine n'était pas près de les porter. La transpiration me coulait dans le cou et je sentais le tissu de ma robe prendre doucement de la mouillure. La chaleur sapait notre bonne volonté et l'ombre restait aussi rare que le cheveu sur un crâne pelé. Enfin, nous traversions la rue principale pour passer sous les marronniers, en lisière de cette grosse propriété de la famille Gentil, que mon père appelle encore la maison des frères. Allez, courage ! Mademoiselle Léonce habitait presque dans l'église, enfin à quelques mètres, et cela devait lui plaire. J'eus le privilège de tirer sur le pied de biche de la porte d'entrée. Pas si fort, ce n'est pas poli. Mademoiselle Léonce Henriquet, que j'avais déjà aperçue ailleurs, était assez forte, avec une poitrine pleine, serrée jusqu'à faire craquer son corsage à col montant. Encore une qui se veut coller montée, aurait dit ma mère. Sa jupe était d'une largeur excessive et se balançait par-dessus les chevilles à chaque pas, car elle semblait avoir des hanches handicapées. Ses bottines lacées cachaient même la couleur des bas. La voix était forte, sans la moindre musicalité. Elle résonnait dans le couloir jusqu'à faire trembler les épaisses murailles. Elle nous introduisit dans son salon, auprès d'un piano ouvert sur le clavier, et tout à côté une petite table dressée pour un goûter. La durée de la visite était prometteuse, mais en revanche la fraîcheur ici avait été ménagée. Elle était extrêmement gentille, pourtant elle me faisait un peu peur. Il me semblait être à l'ombre d'un éléphant. Je le pensais sans jamais le dire à personne, et je voudrais même lui présenter mes excuses. On ne peut rien à ces espèces de visions qui vous taquinent le cerveau. Voilà pour aujourd'hui, et puisque nous sommes chez Mademoiselle Léonce Henriquet pour la leçon de piano, je vous propose d'écouter un petit Schubert par Katia Boutenashvili.
Dire quelque chose après ça.
C'est beau, hein?
Oui, c'est très, très doux. Enfin, voilà, ça adoucit un peu le douloureux moment de la fin de l'émission. Et voilà, on va juste vous dire au revoir et à une prochaine fois.
À une prochaine fois.
Oui, on part sur la pointe
soin
des pieds.
Oui.
Au revoir.
Bonne journée à tous. Culture.